de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Ravi de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Je vais vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, le commentaire, l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, apprendre l'indonésien et des chansons indonésiennes. Comme d'habitude, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde.
RRI, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonsoir à tous. Bienvenue dans le programme des journaux. Aujourd'hui, on commence par le titre International Food du SK Banda Aceh présente une variété de délices culinaires étrangères. Harbin est sélectionné pour accueillir les Jeux Asiatiques d'hiver de 2025. Le Tchad permet aux athlètes russes et biélorusses de participer aux Jeux Asiatiques de 2023. Le point culminant de la réunion annuelle de l'ASEAN Smart City Network, ou ASCN, a eu lieu. Le développement des villes intelligentes devient un enjeu majeur. Des micro-petites et moyennes entreprises de la ville de Batam est prêt à pénétrer le marché commercial dans la région de l'ASEAN. Un tremblement de terre de magnitude 5,2 a secoué la côte de Malabo, Aceh. Les dirigeants de l'OTAN se réuniront à Vilnius pour discuter de l'Ukraine, de la Suède et de la Russie. Bon, chers auditeurs, voici les journaux incomplets. Le 6e Festival international de l'alimentation UIFF de l'Université Syiah Kuala ou USK à Banda Aceh présente des dizaines de spécialités culinaires de pays étrangers des pays d'Asie du Sud-Est à l'Afrique. Le festival, qui se tient du 9 au 11 juillet 2023, a pour thème « Spicing up the world ». C'est ce qu'a affirmé le chef du comité organisateur d'IFF, Sarah Yunis, à Banda Aceh dimanche. Cette année, le 6e IFF collabore avec le Carnaval universitaire IMT, JT, et le Festival culinaire d'Aceh pour animer cette activité. Plus de 603 délégations d'étudiants d'Indonésie, de Malaisie et de Thaïlande ont été emmenés à l'université Syiah Kuala pour présenter leurs trésors culturels respectifs. L'IFF 2023 a également été animé par des performances culturelles internationales, des batailles culinaires, des démonstrations culinaires et des performances d'art musical. Harbin, capitale de la province du Heilongjiang, en Chine, a été sélectionné par le Conseil olympique d'Asie, ou OCHA, pour accueillir les Jeux asiatiques d'hiver de 2025. La décision a été prise par OCHA lors du 42e congrès du Conseil qui s'est tenu à Bangkok, en Thaïlande, le week-end dernier. C'est la deuxième fois que Harbin accueille les Jeux asiatiques d'hiver, après le premier en 1996. Cet événement est également la troisième fois qu'un événement sportif asiatique se tient en Chine, à Changchun, dans la province de Jilin, qui l'a accueilli en 2007. Le Conseil olympique d'Asie, ou OCHA, a approuvé la participation de plus de 500 athlètes russes et biélorusses sans symboles nationaux aux Jeux asiatiques de cette année à Hangzhou, en Chine. Cette décision vise à aider ces athlètes à se qualifier pour les Jeux olympiques de Paris en 2024, en raison de l'invasion russe de l'Ukraine. Ils ne concurreront qu'en numéro individuel et n'obtiendront pas de médaille lors de l'événement qui se tiendra du 23 septembre au 8 octobre. Plus tôt en janvier, le Comité international olympique UTO a établi une feuille de route sommaire pour que les athlètes russes et biélorusses participent aux Jeux olympiques de Paris 2024 et aux Jeux olympiques d'hiver 2026 à Milan et Cortina d'Ampezzo. L'Indonésie accueillera la réunion annuelle de l'ASEAN Smart City Network à Bali les 12 et 13 juillet 2023. La réunion réunira tous les pays membres de l'ASEAN ainsi que des pays observateurs tels que le Japon, la Corée du Sud, l'Amérique et l'Union européenne. Diverses idées, pratiques de mise en œuvre des villes intelligentes et de recherche de solutions face aux zones urbaines, en particulier en Asie du Sud-Est, seront les matériaux de la réunion de cette année. C'est ce qu'a déclaré le directeur général du développement de l'administration régionale du ministère de l'Intérieur, Saf Rizal Z.A., en tant que président de l'ASN 2023 dans son communiqué de presse dimanche, cité infopublic.it. La réunion annuelle de l'ASEAN Smart City Network, ou abrégée en ASN, se concentrera cette fois sur la discussion du développement des villes intelligentes dans 26 villes d'Asie du Sud-Est. Certains pays seront représentés par des fonctionnaires de niveau ministériel. Le gouvernement de la ville de Batam, l'archipel de Riau, a déclaré que les produits des micro, petites et moyennes entreprises typiques de la ville de Batam sont prêts à pénétrer le marché commercial de la région de l'ASEAN. Le chef du bureau des coopératives et des micro-entreprises de Batam, Henry Arulan, à Batam, a déclaré dimanche qu'un certain nombre d'efforts étaient déployés pour soutenir les acteurs de micro-petites moyennes entreprises afin qu'ils puissent pénétrer le marché commercial de l'ASEAN, y compris l'encadrement des acteurs commerciaux liés aux stratégies entrepreneuriales, l'image de marque, promouvoir les produits des micro-petites moyennes entreprises à présenter des emballages de produits qui attirent les acheteurs. Henry a expliqué, le coaching était donné aux acteurs de micro-petites moyennes entreprises qui étaient en affaires depuis longtemps et aussi aux acteurs novices de micro-petites moyennes entreprises. Les micro-petites moyennes entreprises qui étaient devenues la marque de fabrique de Batam comprenaient des entreprises culinaires, artisanales et de vêtements. Un tremblement de terre d'une magnitude de 5,2 a secoué la région de la côte sud-ouest, ville de Malabo Aceh, lundi matin. L'Agence de météorologie, de climatologie et de géophysique a déclaré que le tremblement de terre de Malabo Aceh était situé dans la mer à une distance de 45 km de la ville de sud-ouest de Malabo Aceh à une profondeur de 57 km. Le chef de la division d'atténuation des tremblements de terre et des tsunamis de l'Agence de météorologie, de climatologie et de géophysique, Dariono, a déclaré que prêter attention à l'emplacement de l'épicentre et à la profondeur de l'hypocentre, le tremblement de terre qui s'est produit était un type de tremblement de terre peu profond dû à l'activité de subduction des plaques. Jusqu'à ce que cette nouvelle soit faite, aucun rapport n'avait fait était de l'impact des dommages causés par le tremblement de terre. Les résultats de la modélisation montrent que le tremblement de terre côtier de Malabo Aceh n'a aucun potentiel de tsunami. Les dirigeants de l'OTAN se réuniront à Vilnius, Lituanie, la semaine prochaine pour discuter de l'adhésion de l'Ukraine et mettre fin aux refus turcs de la Suède de rejoindre l'alliance militaire transatlantique. Le président américain Joe Biden, le président turc Tayyip Erdogan, le chancelier allemand Olaf Scholz, le président français Emmanuel Macron et le premier ministre britannique Rishi Sunak seront parmi les 31 dirigeants de l'OTAN qui participeront au sommet en Lituanie. Reuters a rapporté que le président ukrainien Volodymyr Zelensky devrait également être présent et faire pression pour l'acceptation de l'Ukraine dans l'OTAN dès la fin de la guerre déclenchée par l'invasion russe. C'est le journal d'aujourd'hui.
16 auditeurs, bonsoir. Voici le commentaire. Donc le titre est « Le cabinet du Premier ministre néerlandais Mark Rutte tombe ». Le quatrième cabinet du Premier ministre néerlandais Mark Rutte est tombé vendredi 7 juillet. Jusqu'à la formation d'un nouveau gouvernement, ce cabinet sortant ne fera que garantir le bon fonctionnement des rouages quotidiens du gouvernement, mais ne pourra pas prendre des décisions stratégiques. La raison de la chute du quatrième gouvernement sortant de Mark Rutte était l'impasse des partis appartenant à la coalition pour parvenir à un accord sur la politique d'immigration. Récemment, les Pays-Bas ont été inondés des réfugiés du Moyen-Orient, dont la plupart sont originaires de Syrie. Les partis de la coalition du cabinet néerlandais n'ont pas réussi à parvenir à un accord concernant la réunification des familles des réfugiés. Certains veulent des politiques qui limitent le flux de réfugiés, y compris pour leurs familles qui se trouvent toujours en dehors des pays. Pendant ce temps, d'autres disent que l'unification des familles des réfugiés est un prix fixe. La situation avant la chute du gouvernement néerlandais s'est soudainement aggravée la semaine dernière après que Mark Rutte a soudainement menacé de dissoudre son cabinet si les aspirations de son parti à limiter le flux de réfugiés n'étaient pas exaucées. Pour l'Indonésie, la figure de Mark Rutte a en fait une relation particulière. Il a passé son enfance en Indonésie lorsque ce pays était encore une colonie néerlandaise et était connu sous le nom des Antilles orientales néerlandaises. Il semble que la chute du gouvernement de l'ancien premier ministre Mark Rutte n'aura pas beaucoup d'impact sur les relations bilatérales avec l'Indonésie. En plus d'avoir des relations historiques, l'Indonésie et les Pays-Bas ont toujours entretenu une relation assez étroite. Les Pays-Bas, par exemple, sont la plus grande poche de diaspora indonésienne en Europe. Le nombre de la diaspora indonésienne aux Pays-Bas, à la fois ceux qui sont encore citoyens indonésiens et ceux qui ont changé de passeport, est estimé à 1,7 million de personnes. En outre, actuellement, plus de 1500 étudiants indonésiens étudient dans diverses universités néerlandaises. Même s'il a diminué par rapport à 2021, la valeur des investissements néerlandais en Indonésie en 2022 atteindra 1,22 milliard de dollars américains. Les Pays-Bas se classent ainsi au premier rang des pays européens investissant en Indonésie. L'avenir politique des Pays-Bas est encore incertain. Même si le camp de l'opposition flaire l'opportunité d'accéder au pouvoir, il n'est pas facile de former une coalition. D'autant plus qu'il n'y a pas eu de candidat fort pour remplacer Mark Rutte. Pendant ce temps, les partis centristes tentent toujours de formuler une stratégie après l'échec de la pérennisation du cabinet sortant du quatrième Mark Rutte. Ces auditeurs, c'était le commentaire pour ce soir.
La voix de l'Indonésie revient à la tenue du Voice International Quiz 2023. Cette année, le quiz international Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie 2023 est sous la forme d'un concours d'écriture. Écrivez un essai sur l'une des 5 destinations touristiques super prioritaires d'Indonésie, Borobudur, Lac Toba, Likupang, Mandalika et Labuan Bajo. D'une longueur de 700 à 800 mots, Arial 12 et 16 enregistrements, dans la forme d'audio, concours de rédaction ouvert du 10 avril au 20 août 2023. Envoyez votre essai et les résultats de l'enregistrement audio par courriel voicequiz2023@gmail.com. Pour les personnes sélectionnées comme gagnants, une personne pour chaque service linguistique recevra des prix attractifs de la Voix de l'Indonésie. Le gagnant sera annoncé dans le moment 78e journée de radio, le 11 septembre 2023. Pour plus d'informations complètes, veuillez visiter notre site web www.voinews.id et Facebook de The Voice of Indonesia. Soyez prêts, qui sait que vous devenez l'un des gagnants. From Indonesia,
to the world.
Voici l'histoire d'aujourd'hui, le 10 juillet. On commence par le 10 juillet 1962. Le premier satellite de communication au monde, Telstar, a été mis en orbite dans l'espace. Telstar était un satellite lancé par la NASA le 10 juillet 1962 depuis Cap Canaveral, Floride, et était la première mission spatiale parrainée par le secteur privé. Deux jours plus tard, Telstar a livré le premier signal de télévision transatlantique au monde depuis la station terrienne Andover, Maine, au centre de télécommunications de Plumeur-Baudu, Bretagne, France. Telstar est une série de satellites de communication composés de satellites Telstar 1 et Telstar 2. La série de satellites Telstar est un satellite qui marque une nouvelle ère dans les communications électroniques car il a réussi à diffuser la première émission de télévision au monde. Depuis lors, les humains ont commencé à entrer dans l'ère des satellites de communication. Le 10 juillet 1973, l'indépendance des Bahamas. Le Commonwealth des Bahamas est une nation insulaire composée d'environ 700 îles dans les îles Lucayan, Caraïbes. Les Bahamas sont devenues une colonie britannique en 1718. Les Bahamas ont obtenu leur indépendance totale le 10 juillet 1973 et étaient dirigées par Sir Lyndon O. Pindley. En termes de produit intérieur brut par habitant, les Bahamas sont l'un des pays indépendants les plus riches d'Amérique, après les États-Unis et le Canada, avec une économie basée sur le tourisme et la finance offshore. Le 10 juillet 1991, Boris Eltsine entre en fonction en tant que premier président de la Russie. Le 10 juillet 1991, Boris Eltsine a commencé ses fonctions de président après avoir été élu président de la République socialiste soviétique le 12 juin 1991 en remportant 57% des voix. Eltsine est devenu le premier président directement élu de l'histoire de la Russie. Il a occupé le poste depuis le 10 juillet 1991 au 31 décembre 1999. Eltsine était un homme politique né le 1er février 1931 à Budka, Sverdlovsk, Russie. Il est décédé le 23 avril 2007 des suites d'une insuffisance cardiaque. Eltsine a apporté une couleur de démocratie à la Russie qui n'avait jamais existé auparavant. Au début de sa carrière, il s'était battu contre l'établissement communiste lors des élections législatives de 1989 et 1990. Voilà l'histoire d'aujourd'hui.
Senyum lagi, amboi nona manis sekali. Hey dia tengok kita, hey dia jeling mata. Aduh mas senyum lagi, amboi nona manis sekali. Dia mengernyit, amboi ma aku dicubit. Siapa dia, oh putri remaja. Hey dia malu-malu, di balik selendang yang biru. Hey dia senyum padaku, la gadis impianku. Peru peru di pe pe peru 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 di pe 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 wiu peru peru di pe pe peru 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 di pe 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 wiu. Ah yeah.
senyum lagi. Amboi nona manis sekali. Hey dia tengok kita. Hey dia jeling mata. Aduh mas senyum lagi. Amboi nona manis sekali. Dia mengernyit. Amboi ma aku dicubit. Siapa dia? Oh putri remaja. Hey dia malu-malu di balik selendang yang biru. Hey dia senyum padaku. Itulah gadis impianku.
Voilà la première chanson indonésienne, j'espère que vous l'aimez. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Chers auditeurs, voici mon Indonésie.
Chers auditeurs, bonsoir, voici mon Indonésie. Et pour le titre, le gouvernement encourage PME métallurgique à accroître sa compétitivité grâce à des partenariats avec des grandes industries. Le gouvernement indonésien, par l'intermédiaire du ministère de l'Industrie, continue d'accroître la compétitivité des petites et moyennes entreprises, PME, de la métallurgie en facilitant les partenariats avec les grandes industries. La facilitation de ce partenariat vise à renforcer le rôle stratégique de MPME dans les efforts visant à encourager l'accélération de la croissance économique, la stabilité sociale et le développement dynamique du secteur privé. La directrice générale des petites et moyennes entreprises et des industries multiples du ministère de l'Industrie, Reni Yanita, vendredi 7 juillet à Surakarta, Jawa Central, a déclaré que le ministère de l'Industrie faisait activement pression pour que le PME indonésien se modernise et fasse partie de la chaîne d'approvisionnement des grandes industries. Cela vise à maximiser la contribution des PME à l'industrie et à l'économie régionale et nationale. Reni a révélé que le gouvernement facilite régulièrement les partenariats des petites et moyennes entreprises, PME, avec des grandes industries pour créer des acteurs de PME productifs et compétitifs. Parce que grâce à ces partenariats, PMI peut également obtenir la certitude du marché et l'approvisionnement en matière première. En outre, les partenariats peuvent encourager PME à assumer la responsabilité d'apporter des améliorations qualitatives et quantitatives sur une base continue, de mettre en œuvre des systèmes de gestion, d'augmenter les ressources humaines, l'accès à l'information, la technologie, les licences et d'autres questions selon les demandes des partenaires. Afin d'atteindre cet objectif, le ministère de l'Industrie a tenu une réunion d'affaires dans le cadre de la facilitation du partenariat des PME de la métallurgie avec les grandes industries à Soloraya les 4 et 5 juillet 2023. Dans cette activité, la Direction générale des petites et moyennes industries et des industries multiples du ministère de l'Industrie en synergie avec le bureau des coopératives des MPME et de l'industrie de la ville de Surakarta, la Fondation Dharma Bhakti Astra, YDBA et la Chambre de commerce et d'industrie de la ville de Surakarta. Reni a déclaré que les conférenciers des représentants de grandes industries ont transmis le développement de l'industrie manufacturière nationale, les termes et procédures de partenariat et le besoin de composants qui pourraient potentiellement être fournis par PME. Selon elle, cette réunion d'affaires fait suite au protocole d'accord entre le ministère des coopératives et des petites et moyennes entreprises, le ministère de l'Industrie et le ministère des entreprises d'État, BUMN, concernant les partenariats coopératifs, les MPME, PME dans la chaîne d'approvisionnement de BUMN qui a été signée le 3 septembre 2021. Depuis 2018, la Direction générale des petites et moyennes entreprises et des industries multiples du ministère de l'Industrie a facilité le partenariat de 18 PMES de la métallurgie et de la machinerie avec 11 grandes industries, tant publiques que privées, dans le but notamment de fournir des services agricoles et de plantation, la fourniture de produits de pompes de coulée, la fourniture de composants de dispositifs médicaux, la fourniture de matières premières, la fourniture de composants d'équipement lourd et la fourniture de services de réparation et des pièces mécaniques. Reni espère que cette opportunité sera le bon moment pour PME pour découvrir les types et les spécifications des composants qui peuvent être fournis, les plans pour le besoin d'approvisionnement dans les grandes industries, les exigences de standards et les procédures d'approvisionnement des entreprises appartenant à l'État, BUMN, afin qu'elles puissent ensuite faire partie de la chaîne d'approvisionnement du BUMN. C'est Ajurita, c'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie, la diffusion en français.
Bon, chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson indonésienne. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde, en plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.it. Maintenant, nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien.
Ces auditeurs, la place de l'Ailote, ou mieux connue sous le nom de la place de Poe, est située dans le village de Poe, district de Kota Selatan, Gorontalo. Cette place est à environ 6 km du centre-ville de Gorontalo. L'accès à cet endroit est assez facile. Vous pouvez utiliser divers transports terrestres pour rejoindre l'Ailote. Le nom l'Ailote vient d'un rocher de cette zone côtière. La pierre est connue sous le nom de Botu Liodu Leilailote. Le mot Botu signifie pierre et Liodu signifie empreinte de pied. Ainsi, Botu Liodu est une pierre en forme d'empreinte de pied. Cette pierre aurait été la plante de pied d'un voyageur nommé Lailote. La place de Lailote a un littoral incurvé ressemblant à une baie avec des voûtes captivantes. Cette plage est également l'arrière-fond des collines verdoyantes, des corées de sable propre et d'eau claire. Vous pouvez également faire d'autres activités telles que la natation, la plongée en apnée, la pêche ou simplement vous promener sur la plage. À l'approche de la soirée, profitez de la beauté du coucher de soleil sur cette plage. Chers auditeurs, votre visite sera moins mémorable si vous n'êtes pas témoin de la pierre en forme d'empreinte de pied de l'Ailote qui est là-bas. En plus aussi parce que vous voulez profiter du charmant panorama. Chers auditeurs, c'était le magazine culturel pour ce soir. À bientôt!
Dan kini tak ada yang mampu. Voice of Indonesia.
Oh yeah, tiada yang bisa halangimu. bersama mimpi dan cinta yang setia menemani langkahmu. Tak mungkin terhenti, kau siap diuji, kau generasi pemberani. Cerah menunggumu bersama mimpi dan cinta yang setia menemani. Oh, langkahmu tak mungkin terhenti, kau siap diuji, kau
Chers auditeurs, vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. En plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz, vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Et la rubrique suivante, voici Apprendre l'Indonésien. Bonsoir tous les amis, on se retrouve dans l'émission Apprendre l'Indonésien qui vous présente des phrases et des vocabulaires indonésiens et vous guide pour parler indonésien. Cette émission est une collaboration entre Voice of Indonesia, la station de radiodiffusion à l'étranger de RRI, avec l'Agence nationale pour le développement et le renforcement de la langue du ministère de l'Éducation et de la Culture de la République de l'Indonésie. Le sujet d'aujourd'hui est Di Pantai Muale signifie à la plage de Muale. Je vais vous présenter une conversation dont le titre est Kita hampir sampai. Je répète, Kita hampir sampai signifie nous y sommes presque. Cette conversation a eu lieu entre Chris George Robinson, un vlogueur australien, et Sol Tauli, l'ami de Chris de la communauté de vlogs. Sol Tauli décrit un voyage à la plage de Moale. Écoutons la conversation.
Jalan ke pantai Moale mulus ya?
Iya, bagus sekali. Apakah masih jauh?
Kita hampir sampai.
Après avoir fait écouter la conversation, je vais vous introduire des expressions et des phrases liées au sujet d'aujourd'hui. Kita hampir sampai. Kita hampir sampai signifie nous y sommes presque. Je vais prononcer doucement et lentement chaque mot ou chaque phrase deux fois. Vous pouvez le répéter après moi. Kita. Kita signifie nous. Hampir sampai. Hampir sampai signifie presque là. Kita hampir sampai. Kita hampir sampai signifie nous y sommes presque. Jalan. Jalan signifie la route. Mulus. Mulus signifie lisse. Bagus sekali. Bagus sekali signifie très beau. Masih jauh. Masih jauh signifie encore loin. Dans la conversation, on entend l'expression kita hampir sampai. Kita hampir sampai signifie nous y sommes presque. Dans le discours, il y a un adverbe hampir. Je répète, hampir signifie presque, qu'il indique l'estimation d'un processus d'activité qui ne prendra pas longtemps ou qui est en voie d'achèvement. Dans ce discours, l'expression « hampir sampai » je répète « hampir sampai » signifie presque là, exprime le voyage estimé à la plage de Moale qui arrivera bientôt. Un autre exemple? Allez écouter un autre exemple d'utilisation du mot hampir. Hampir signifie presque dans une autre phrase. Kita hampir selesai ujian. Kita hampir selesai ujian signifie nous avons presque terminé l'examen. Pesawat hampir tiba di bandara. Pesawat hampir tiba di bandara signifie l'avion est presque arrivé à l'aéroport. La plage Moalé est l'une des nombreuses belles plages de la région Nias du Sud. La plage, située dans la partie ouest de l'île de Nias, a un littoral droit et long. Sa beauté augmentera lorsque le soleil commencera à se coucher. Avant de terminer à apprendre la langue tunisienne d'aujourd'hui, écoutons encore une fois la conversation.
Jalan ke pantai Moalé mulus ya?
Iya, bagus sekali. Apakah masih jauh?
Kita hampir sampai.
Chers amis, voilà l'émission Apprendre l'Indonésien d'aujourd'hui. J'espère que cette édition pourra être utile pour vous en savoir plus sur la langue indonésienne. Nous nous rencontrerons dans la prochaine édition avec les différents sujets. Au revoir!
Terus beranjak pergi.
Jakarta, voici la voix de l'Indonésie, la diffusion en français. L'Indonésie revient à la tenue du Voice International Quiz 2023. Cette année, le Quiz International Voice of Indonesia, la Voix de l'Indonésie 2023, est sous la forme d'un concours d'écriture. Écrivez un essai sur l'une des 5 destinations touristiques super prioritaires d'Indonésie, Borobudur, Lac Toba, di Kupang, Mandalika et Labuan Bajo, d'une longueur de 700 à 800 mots, Arial 12 et 16 enregistrements. Dans la forme d'audio, concours de rédaction ouvert du 10 avril au 20 août 2023. Envoyez votre essai et les résultats de l'enregistrement audio par courriel voicquiz2023@gmail.com. Pour les personnes sélectionnées comme gagnants, une personne pour chaque service linguistique recevra des prix attractifs de la Voix de l'Indonésie. Le gagnant sera annoncé dans le moment 78e journée de radio, le 11 septembre 2023. Pour plus d'informations complètes, veuillez visiter notre site web www.voinews.id et Facebook de The Voice of Indonesia. Soyez prêts, qui sait que vous devenez l'un des gagnants. From Indonesia to the
world. Chers auditeurs, voilà la dernière chanson que vous écoutez. Et nous continuons notre programme avec les informations musicales. Bonne écoute.
Apalah arti cinta yang indah, apalah arti cinta dan sayang, selalu terhalang masalah lama tentang rasa percaya. Hati yang ku jaga selalu untuk dirimu yang mengeluh, tentang pribadi yang selalu salah di pandanganmu sayang. Tapi ku tetap terus melangkah karena ku tak mau berpisah. Hilangkan semua curiga yang membuat kita terus berjarak. Percayalah pada diriku, ku kan selalu menjaga. Thank you.
Chers auditeurs, cette l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. Au revoir.